Canalem, on aime l'été.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Aime l'été du 4 juillet 2019. Louis Garon, microphone en compagnie de Catherine Bourderon. Bonjour Catherine.
Bonjour Louis.
Aujourd'hui encore une fois, une émission fort chargée. Chers auditeurs, on parle bien sûr du 80e anniversaire du discours de Lou Gehrig et la mission et les services de la Société de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA du Québec, avec Madame Claudine Cook. Également, il sera question de la maladie de Lyme avec François Baruet.
La journaliste, chroniqueur, auteure Brigitte Bédard vient nous parler de son livre « J'étais incapable d'aimer » aux éditions Novalis.
Et également, je vous présente Philippe Manning, qui est le fondateur de ProSet Autism, qui procure des leçons de tennis pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Également, on va recevoir, comme à tous les jeudis, Emmanuel Robitaille, qui nous présente sa chronique spirituelle.
Et Dr. Monique Bessette sera présente pour parler de son livre paru aux éditions de l'Homme, Les personnalités particulières au travail, Louis.
Ben merci Catherine, beau. Ce qu'on appelle un très beau menu, très copieux.
En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon ait emporté notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté. Les souvenirs, on peut les refaire sur un tapis de fougère. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. En nous réveillant demain matin, que nous n'ayons plus rien. Ne souris pas, ça peut nous arriver. Et nous ne serions pas les premiers. Regarde l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort. Quand le passé tombe au fond de l'eau, l'amour repart à zéro. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus mes yeux pour voir l'azur, j'aurai toujours mon cœur pour l'aventure. Mais si je n'ai plus de cœur, je n'ai plus rien. Il est le seul abri dont j'ai besoin.
Chantait « Mon cœur pour te garder ».
On est le 4 juillet. Hein? Vous savez, le 4 juillet, c'est la fête nationale des Américains, Catherine, non?
Oui, mais d'ailleurs, c'est une date historique. C'est quoi au juste le 4 juillet? Pourquoi on célèbre autant cette date-là?
J'ai fait une petite recherche qui n'est pas très exhaustive, assez rapide, Catherine, parce que je me posais la même question moi-même. Alors, cette fête nationale célèbre la déclaration d'indépendance des 13 colonies d'Amérique vis-à-vis la couronne britannique. Ça s'est passé le 4 juillet 1776, donc il y a 243 ans. Cette déclaration d'indépendance, les a été fait réalisé par Thomas Jefferson. Si le nom vous est connu, c'est parce qu'il deviendra le 4 mars 1801 le troisième président de l'histoire des États-Unis après John Adams et bien sûr George Washington, qui lui est le premier président américain de l'histoire. Cette ébauche a été faite à Philadelphie. Pourquoi Philadelphie? Parce qu'à l'époque, Philadelphie était considérée comme la capitale des États-Unis avant Washington, bien sûr. Tout ça, non seulement à Philadelphie, on a signé cette déclaration d'indépendance, mais en 1801 également, en 1787, c'est également à Philadelphie qu'on a signé la première constitution américaine. Alors, c'est pour ça qu'on surnomme également Philadelphie la ville de l'amour fraternel ou le brotherly love.
Et les Américains ont congé aujourd'hui.
On congé, puis on les salue. Hein. Espérons que s'il y en a qui nous écoutent, parce qu'ils peuvent nous écouter sur Internet. Hein. Nous, on est à la grandeur du globe, ici à Canal M, ce qui est merveilleux, en plus d'être sur le câble où on est diffusé d'un océan à l'autre. On se transporte toujours aux États-Unis parce qu'il y a un anniversaire spécial qu'on célèbre également. Ce n'est pas la fête de l'indépendance, mais c'est un grand discours d'un des plus grands joueurs de baseball de l'histoire. On écoute un extrait de ce discours dont on célèbre aujourd'hui, je le rappelle, le 80e anniversaire.
First baseman Lou Gehrig hung up an amazing mark by playing in 2130 consecutive games. Then a fatal disease attacked baseball's Iron Man. In Yankee Stadium, touched to tears by the tribute, Gehrig made his last public appearance.
For the past two weeks. You've been reading about a bad break. Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. When you look around, wouldn't you consider it a privilege to associate yourself with such a fine-looking man as a standing in uniform in this ballpark today.
That I might have been given a bad break.
La voix que vous entendez présentement, c'est celle de Lou Gehrig, le célèbre joueur de premier but des Yankees de New York, qui était à l'époque de Babe Ruth, hein, la grande vedette des Yankees de New York. Alors, c'est le 80e anniversaire, hein, de Lou Gehrig, parce que maintenant, on l'appelle la maladie de la sclérose latérale amyotrophique, qui était autrefois, bien sûr, on appelait la maladie Lou Gehrig. Alors, pour parler de ce 80e anniversaire du discours, on joint Claudine Cook, qui, elle, est directrice générale de la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec. Bonjour, Mme Cook.
Bonjour.
Lorsque vous entendez le discours de Lou Gehrig, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme émotion?
You know, je l'ai entendu depuis plusieurs années et ça me donne des frissons toujours. C'était un homme humble, courageux, fort et inspirant. Puis c'est comme ça que toutes les familles que nous rencontrons avec cette maladie, ils représentent les mêmes personnes que nous soutenons à la société que nous rencontrons. C'est des personnes inspirantes qui nous forcent à faire le plus possible pour vaincre cette maladie.
Parce que c'est une idée. Monsieur Gehrig aussi, on le croyait immortel à l'époque parce que c'était un homme quand même au fort gabarit, qui était fort comme un chêne, et on voyait mal comment une personne comme Lou Gehrig pouvait se trouver ainsi amoindrie en raison de la maladie.
C'est ça, il est décédé 2 ans après cette fameux discours, puis il y avait 38 ans. Et, you know, 80 ans plus tard, la maladie est toujours... il n'y a pas encore un remède, il n'y a pas encore un traitement efficace pour arrêter cette maladie. Et c'est pourquoi il faut faire la sensibilisation. Puis je vous remercie de de sensibiliser votre grand public aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on va faire arrêter cette maladie.
Ben c'est avec plaisir, Madame Cook, ça nous fait grand plaisir de parler de cette maladie, hein, la sclérose latérale amyotrophique, qui était bien sûr publicisée en raison du Bucket Challenge, hein, qui a connu quand même, qui a aidé beaucoup à mieux connaître la maladie ainsi que ses conséquences. Mais plus précisément, qu'est-ce que la sclérose latérale amyotrophique, là, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec la maladie?
C'est une maladie neurodégénérative. C'est quand on a des neurones dans notre cerveau que leur rôle, c'est de faire bouger nos muscles. So, peu à peu, quand ces neurones meurent, les personnes qui sont atteintes, ils perdent leur habilité de marcher, parler, tous les muscles volontaires, manger, avaler, ensuite de respirer. C'est une maladie mortelle. Et entre 2 à 5 ans depuis la date de diagnostic, 90% des personnes décèdent de cette maladie.
Est-ce que cette détérioration ou dégénérescence se fait au même rythme chez tous les gens atteints de la maladie?
Non, tout le monde, chaque cas absolument est différent. Des fois, c'est les bras qui vont en premier, des fois, c'est la voix, des fois, c'est les jambes. Puis tout le monde progresse différemment. Tout le monde gère la maladie différemment. C'est la Société de la santé du Québec. Nous sommes là à chaque étape de la maladie pour offrir des programmes et des services vraiment personnalisés, soit une écoute attentive, de l'équipement spécialisé, de l'aide financière pour dire IP, parce que nous supportons non seulement la personne atteinte, mais aussi les dents. Nous avons même un programme parascolaire pour les enfants, dont un parent qui est atteint, pour que les familles peuvent vivre avec les SLA le mieux possible durant ce temps très difficile. Et puis, jusqu'à temps qu'il y ait un remède ou une cure, nous sommes là pour eux.
Vous parlez, il n'y a pas encore de remède, où on est toujours en train de rechercher éventuellement des remèdes ou des façons de guérir la maladie. On est rendu où un peu dans la lutte pour, bien sûr, combattre ou vaincre cette sclérose latérale amyotrophique?
Depuis les 10 dernières années, il y a beaucoup d'espoir, puis certainement depuis l'Ice Bucket Challenge, comme vous l'avez mentionné, où on a reçu, notre cause mondialement a reçu une grosse vague de dons inestimables, que c'est vraiment, ça fait déjà 5 ans, croyez-le.
Oui, ça passe très rapidement, en effet. Hein?
5 ans depuis le mois d'août prochain. Il y a eu beaucoup d'espoir et beaucoup de progrès à cause que les fonds que les chercheurs ont réussi. Les chercheurs, comment je pourrais dire, il y a des progrès, mais ils ont besoin de l'argent pour continuer leurs efforts. Surtout au Québec, il y a la communauté des chercheurs sont très actives, ils ont des percées, mais comment le tout va accumuler pour trouver le cure ou le traitement, c'est dans la bonne voie.
Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut rêver à une solution éventuellement?
Absolument. Il y a des traitements, mais des traitements qui sont acceptés par Santé Canada depuis août dernier, mais nous attendons toujours que sont en train de faire la négociation entre le prix entre le gouvernement et la compagnie pharmaceutique. Alors, il faut vraiment qu'on travaille avec nos élus pour accélérer la procédure pour avoir accès à ces médicaments pour nos familles. On travaille beaucoup avec la communauté de la SLA à travers le Canada pour vraiment faire entendre les voix pour accélérer, une fois qu'il y a quelque chose qui vient au marché aux États-Unis, que le Canada soit également attrayant et que c'est au marché puis à nos familles rapidement.
Sans guérir la maladie présentement, est-ce qu'il y a des médicaments qui quand même retardent passablement l'avancée de la maladie chez les gens atteints?
Il y en a un qui s'appelle Riluzole depuis 23 ans, qui peut ralentir peut-être 3 mois, si ce n'est pas un ralentissement significative. Et puis le deuxième, c'est le Deveron, qu'il y a 200 familles qui sont maintenant un accès spécial, qui également a une qui peuvent ralentir la maladie, mais c'est ce médicament qui n'est pas accessible à tous en ce moment. C'est celui qu'on attend que ça soit négocié pour que ça soit accessible à tous.
Ça veut dire que les gens qui doivent débourser, ils ne sont pas remboursés par les assurances ou un régime d'assurance médicaments du Québec, par exemple.
Exactement.
Il faut le payer plein prix.
Exact. Et puis, c'est vraiment, il y a des conditions pour, avec ce médicament également, selon les critères de l'évolution de la maladie. Mmh.
Vous disiez précédemment, l'argent est souvent le nerf de la guerre pour trouver un remède à cette terrible maladie. Avez-vous des événements de financement prévus dans les prochains mois ou les prochaines semaines, Mme Cook, qu'on pourrait publiciser à notre antenne?
Oui, nous avons un gros événement de vélo qui va se faire dans le centre du Québec à Bécancour. C'est un événement de vélo de 3 jours, mais les gens peuvent rouler 3 jours, 2 jours ou 1 jour. C'est vraiment un événement rassembleur pour ceux qui aiment faire le vélo. C'est pour tous les niveaux de cyclistes. Même s'ils veulent joindre au groupe, puis ils font pas du vélo, nous avons une journée de bien-être, santé et bien-être le 24 août également. Et nous avons la marche pour la SLA le 25 août à Laval et le 15 septembre à Montréal. Les personnes peuvent aller sur notre site web à slaquebec.ca et pour participer. Ils peuvent participer, ils peuvent faire du bénévolat. Chaque action compte, puis on est très reconnaissant pour tout le monde qui s'engage avec nous.
Et sur le même site, bien sûr, on peut avoir plus d'informations sur les services offerts par votre organisme. C'est bien ça.
Absolument.
Parfait.
Vous pouvez voir, c'est vraiment des programmes variés pour aller au rythme de la famille.
Excellent. Mais merci beaucoup, Mme Cook, pour ces quelques minutes. Ce fut fort enrichissant et on rappelle qu'on célébrait avec vous aujourd'hui le 80e anniversaire du discours de Lou Gehrig, cette légende des Yankees de New York. Discours qu'il a prononcé au Yankee Stadium, là où il évoluait, bien sûr, et où là, il a marqué l'histoire du baseball. Merci beaucoup, Mme Cook.
Merci.
Merci à vous.
Aimez-moi clou, aimez-moi sans, aimez-moi fuir. Aimez-moi partout, aimez-moi maintenant, aimez-moi sans dire. Aimez-moi genoux, aimez-moi néant, aimez-moi encore. Aimez-moi debout, aimez-moi géant, aimez-moi plus fort. Aimez-moi demain, aimez-moi sans fin, aimez-moi toujours. Aimez-moi de nuit, aimez-moi matin, aimez-moi d'amour. Aimez-moi de noir, aimez-moi de bleu, aimez-moi détresse. Aimez-moi de vœux, aimez-moi d'espoir, aimez-moi promesse. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Aimez-moi déni, aimez-moi secret, aimez-moi dans l'ombre. Aimez-moi de pluie, aimez-moi de craie, aimez-moi plus sombre. Aimez-moi remords, aimez-moi regrets, aimez-moi douleur. Aimez-moi conscience, aimez-moi sensible, aimez-moi sans peur. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Tout ce que je veux. Aimez-moi à corps, aimez-moi détour, aimez-moi quand même. Aimez-moi aurore, aimez-moi lueur, aimez-moi sans gêne. Aimez-moi lumière, aimez-moi redoux, aimez-moi chaleur. Aimez-moi de froid, aimez-moi de grêle, aimez-moi de pleurs. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Que je veux être aimé.
Alicia Deschaînes, aimez-moi.
On parlait de chaleur dans cette chanson-là. En ce moment, il fait chaud, c'est la canicule, comme vous le savez bien. Et ça amène des moustiques, des piqûres de tiques. On parle donc, dans certains cas, de maladie de Lyme. Vous connaissez cette maladie?
Oui, qui peut être provoquée à la suite d'une piqûre de tiques à pattes noires. Et on en parle un peu plus avec notre chroniqueur santé, François Beruel. Bonjour, François.
Bonjour, Louis.
Alors, pour ce qui est de la maladie de Lyme, qui est de plus en plus populaire, dont on entend de plus en plus parler dans les journaux, notamment en période estivale, parce que c'est là que le moustique, le fameux tic à patte noire, qui serait celui qui provoque la maladie de Lyme chez les humains, est plus présente. On entend de plus en plus parler, mais plus précisément, qu'est-ce que la maladie de Lyme?
La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est décrite comme au long cours et qui est décrite comme une atteinte des nerfs, une atteinte neurologique, une atteinte des articulations, des lombalgies, des troubles neurologiques type dépressif ou même ralentissement, des troubles cognitifs en réalité.
Et des gens que j'ai pas connus personnellement, mais des gens qui ont été atteints par cette maladie ou qui ont souffert de cette maladie, disent que ça peut être très long avant que tous les symptômes disparaissent.
Ça peut être... Alors, c'est très important de bien discerner les choses. C'est qu'en réalité, dans 98% des maladies, des piqûres de tiques, rien ne se passe.
Okay.
Ensuite, dans une petite portion, il y a ce qu'on appelle un érythème migrant, c'est-à-dire qu'au point de piqûre, il y a une rougeur qui grossit, qui grandit. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant parce que ça ne se résout pas. Et parfois, malgré les antibiotiques qu'on donne... les symptômes persistent, ils s'installent et ils persistent. Il faut bien rassurer les gens, en fait. C'est pas si dangereux que ça.
OK. Et comment on traite la maladie de Lyme ou quels sont les symptômes qui pourraient nous faire croire que nous sommes atteints de cette maladie?
C'est la première chose, c'est le fait d'avoir cet érythème migrant, c'est-à-dire cette tache rouge. Et ensuite, apparition d'un bras qui bouge moins bien ou bien des douleurs.
On parle de fatigue.
On parle de fatigue aussi, exactement. Oui. Et c'est ça qui fait penser à ça. Donc, on va voir le médecin et le médecin fait des examens. Il fait un examen sérologique pour savoir, on recherche dans le sang, les signes d'une infection à la par le Lyme, la borreliose en fait. Ce premier examen qui n'est pas spécifique, s'il revient positif, on fait un deuxième examen qui, lui, est très spécifique. On peut être atteint, on peut avoir été atteint ou touché par la maladie de Lyme, par le tic, pardon, par la tic, mais pas forcément développer une maladie de Lyme.
Et c'est pour ça qu'on en parle un peu, on la qualifie souvent de maladie fantôme.
Tout à fait. Parce qu'en réalité, dans 80% des cas de maladie de Lyme qui ont été dites maladie de Lyme, c'est autre chose. Mais c'est franchement autre chose.
Est-ce qu'il y a des maladies qui s'apparentent, qui pourraient être, les gens sont convaincus, j'ai la maladie de Lyme parce qu'elle est plus à la mode présentement, il y a des célébrités ou il y a des gens connus qui ont souffert de la maladie, mais c'est pas du tout ça.
Il y a beaucoup de maladies qui peuvent s'apparenter à ça, puisque les lombalgies, c'est assez banal, mais ça peut être aussi dû à une inflammation du disque, d'un disque, voire une infection même d'un disque entre les vertèbres, même peut-être les vertèbres.
C'est ce qui fait que la maladie est difficile à diagnostiquer aussi?
La maladie est difficile à diagnostiquer, c'est vrai. Si elle existe vraiment, c'est exceptionnel. Mais si elle existe vraiment, elle est difficile à diagnostiquer. C'est vraiment, il faut supprimer toutes les autres causes. Il faut vraiment faire toute une batterie d'examens.
OK, on y va pour on efface par exemple. Et à la fin, lorsque c'est la seule option, là on peut arriver au verdict que cette personne-là
est une
maladie de Lyme. On parlait d'antibiothérapie la semaine dernière, je le disais. Il y a également il y a une série d'articles, deux articles, la chroniqueuse Isabelle Haché dans la presse qui est parue dans la presse Plus et qui a fait beaucoup jaser. Elle concernait le docteur Amir Kadir qui, lui, avait bien sûr fait appel à l'antibiothérapie pour notamment guérir des gens qui se disaient atteints de la maladie de Lyme.
C'est quelque chose qui est très... C'est vraiment très, très, très controversé, cette attitude-là de donner des antibiotiques, en fait, au long cours. Parce qu'au début, au tout début, s'il y a en effet une piqûre par une tique et que la tique qu'on l'on découvre est là depuis 2 jours, on la repère parce qu'on voit qu'elle a grossi, elle est grosse. Quand une tique mord la peau et met la tête dans le corps, elle est toute petite. C'est un petit point noir de rien du tout. C'est une tête d'épingle. Et lorsqu'on s'en aperçoit, si elle est très grosse, c'est là qu'on peut avoir un risque de maladie de Lyme ou du moins d'une infection à Borrelia. C'est ça en fait qui fait qu'on peut s'inquiéter. Donc là, c'est là qu'on peut donner des antibiotiques. C'est à ce moment qu'il faut donner des antibiotiques.
Mais on ne peut pas dire à la personne, je crois éventuellement vous donner, vous avez tous les symptômes d'une personne qui fait la maladie de Lyme. J'ai vu d'autres patients exactement qui me disaient exactement la même chose que vous. Alors, allons-y, parce que souvent, les gens qui vont chez le médecin, qui se disent, parce que, comme on dit, c'est une maladie qui est tellement difficile à diagnostiquer. Souvent, les gens vont en ultime recours chez le médecin. Écoutez, je suis prêt à essayer n'importe quoi, docteur, parce que jusqu'à présent, on n'a pas été capable de mettre le point, de mettre le doigt sur la maladie dont je souffrais. Et puis, je suis rendu tellement désespéré que je suis prêt à essayer n'importe quoi.
C'est exactement ça le point. C'est qu'en réalité, les gens qui se font prescrire des antibiotiques au long cours, ils le font souvent avec un peu de pression sur le médecin, ou le médecin a pris l'habitude de soutenir les gens qui sont les patients qui souffrent de ça ou qui pensent souffrir de ça pour les aider, pour ne pas les abandonner. C'est ça l'argument principal. En réalité, on s'est aperçu que donner des antibiotiques ou pas donner des antibiotiques, dans beaucoup de cas, ça ne sert à rien, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est un effet placebo, hein, finalement. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire un diagnostic comme ça.
Ouais.
Et c'est vrai que les gens qui viennent voir leur médecin, c'est souvent parce qu'ils sont désemparés.
Mm-hmm. Parce qu'il y a deux philosophies. Il y en a des philosophies qui sont contre la prise d'antibiotiques au long cours, comme vous en parlez. Il y en a d'autres qui disent, bon, ben, rendu là... l'un ou l'autre, on va, si ça peut les aider de faire une antibiothérapie au long cours, c'est très dangereux.
C'est très dangereux de faire une antibiothérapie au long cours, puisque ça peut provoquer des tas de choses. On a vu que
pourrait éventuellement faire en sorte que la maladie va persister encore plus longtemps, va prendre l'expansion, ou que la personne va être encore plus malade qu'elle l'était au début?
Si on prend des antibiotiques au long cours, ça va rien faire en réalité. Il n'y a pas d'efficacité au long cours des antibiotiques puisqu'ils ont déjà frappé, ils ont déjà tué tous les germes. Et donc, continuer plus longtemps, à quoi ça sert? C'est pas logique.
Pour les gens qui veulent, qui ont une peur bleue d'attraper la maladie de Lyme, quel conseil pourriez-vous leur donner, François?
Simplement, quand ils reviennent d'un jardin, d'un parc, qu'ils ont fait une promenade, une randonnée, tous les soirs, il faut juste examiner leur corps en entier, principalement sur les jambes, bien sûr, mais aussi sur les bras, et puis dans les plis, et regarder s'il n'y a pas une tique qui est là et qui montre sa tête, enfin son corps. Et à ce moment-là, la retirer avec un arrache-tique, qui se vend d'ailleurs en pharmacie, qu'on trouve partout, qui coûte 50
cents. Une pince à sourcils, à la limite. Une pince à sourcils.
Presque ça, sauf que la pince à sourcils va exprimer le corps de la tique, et à ce moment-là, qui peut baver à l'intérieur du corps.
Il peut contaminer.
Donc, il vaut mieux la retirer à ce moment-là. Mais c'est le meilleur moyen, c'est de se protéger, c'est-à-dire d'avoir des vêtements, des couvrants, des chaussettes qui montent sur les pantalons, ne pas se promener dans l'herbe en short.
Ouais.
Et vérifier tous les jours, tous les soirs, vérifier qu'il n'y a pas de tique. C'est très rapide à faire.
Ouais. Ben, écoutez, c'est un excellent conseil. Ouais. On va essayer de le suivre également. J'espère que vous allez le suivre.
Écoutez, aime l'été.
Aime l'été avec Catherine Bourderon et Louis Garon, microphone, qui vous accompagne jusqu'à 13h. J'espère que vous passez un très beau moment en notre compagnie. Dans la prochaine heure de l'émission, on va vous parler de tennis, mais de leçons pour une clientèle particulière. Je me suis entretenu un peu plus tôt avec Philippe Manning, qui est le fondateur de ProSet Autism, qui est un organisme qui donne des leçons de tennis. Également, on va s'entretenir avec Emmanuel Robitaille. Vous savez, Emmanuel Robitaille qui fait les chroniques spiritualité à l'émission à tous les jeudis, Catherine. Et aujourd'hui, elle nous parle du
Ce son fameux qu'on dit lorsqu'on fait de la méditation.
Oui, et voilà, on va savoir un peu plus quelles les qualités du Om également. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de... Il y a différentes caractéristiques du Om qui peuvent être très bénéfiques pour l'être humain. C'est ce que va nous dire Emmanuel Robitaille un peu plus tard à l'émission. Également, on va recevoir en fin d'heure Mme Bessette. Hein, c'est vous qui avez la recevoir.
Qui nous parle de comment interagir avec des personnes particulières au travail.
Et juste avant... Et juste après cette chanson-là, on va recevoir Brigitte Bédard en studio. Elle est déjà arrivée. Vous avez eu la chance de faire connaissance avec Madame Bédard, Catherine, qui sera votre invitée. Mais juste avant, on écoute une courte pièce.
ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.
Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laissons tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais retrouvé.
Vient d'entendre La Foule par la formation Arcadian.
Nous sommes en compagnie de Brigitte Bédard qui a écrit un livre « J'étais incapable d'aimer, ça nous arrive tous » aux éditions Novalis. Alors dans son livre, elle nous raconte sa quête existentielle qui l'habitait alors qu'elle a tout essayé, drogue, sexe, alcool. À 23 ans, elle atterrit chez les cocaïnomanes anonymes pour en sortir 10 ans plus tard, abstinente de toute drogue, mais encore là, plus désespérée, elle remplaçait une dépendance par une autre. Elle cherchait l'amour partout, partout. Elle était, cet amour-là n'était jamais à la bonne place. Bonjour, Madame Bédard.
Bonjour.
Est-ce que c'est possible encore d'aimer? Est-ce que c'est possible pour ceux qui ont perdu la foi? Est-ce qu'un jour, on peut retrouver l'amour lorsqu'on a autant souffert?
Oui! Oui, on peut aimer, puis on peut être aimé. Je me demande lequel des deux qui est le plus difficile. Se laisser aimer... ou aimer, mais en tout cas, oui, c'est possible, malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, les mauvaises nouvelles, tout ce qui va mal, on peut aimer encore, oui.
Et donc, on va se le dire franchement, là, vous n'avez pas souffert pour rien, vous avez écrit un livre. Qu'est-ce que vous laissez en héritage dans ce livre-là pour nous et d'autres personnes qui perdent pied? C'est quoi le message derrière? Comment on peut s'en sortir?
Oui. Je te dirais que le message majeur, c'est que il y a toujours de l'espoir. Que l'espérance, elle est là, même quand on pense que tout est fini, tout est foutu, qu'on pense qu'il y a juste la mort qui pourrait nous sortir de nos ténèbres. Non, la vie est surprenante. La vie nous surprend. Avec des choses qu'on croyait impossibles sont possibles.
Mais ça arrive comment? Est-ce qu'il y a un déclic?
C'est ça.
On veut le savoir. Ben oui. On veut savoir, nous aussi.
Mais il n'y a pas de recette toute faite. Hein. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de coachs de vie, des trucs comme ça. C'est bien à la mode, tout ça. Puis une recette, comment faire, puis tout ça. Mais on est tellement différents les uns des autres. On est tellement un univers inconnu intérieurement. Et nos faiblesses, nos défauts, là, j'aime pas ça dire défauts, mais j'aime mieux dire nos fragilités. On n'est pas des chars, on n'a pas des défauts de fabrication. On est tellement différents. Alors,
Madame Bénard, c'est parce que vous avez été très longtemps dans l'ombre.
Oui.
Et là, vous êtes dans la lumière.
Oui.
Moi, ce que je veux savoir,
c'est
comment
quoi?
On fait?
En fait, j'ai rien fait, je vais vous le dire franchement. J'ai dit oui un jour à un gars qui m'a donné un papier puis qui m'a dit, Brigitte, tu devrais aller faire un inventaire de ta vie à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. J'étais tellement désespérée, je n'avais que l'envie de mourir, que je suis allée en cachette. Parce que je voulais rien savoir de tout ce qui était église ou religion. Je suis allée et puis moi, au bout de 3 jours, après avoir engueulé un moine pendant 3 jours, je l'ai vraiment vertement engueulé. Dieu m'a tombé dessus. Mais ça a été mon cheminement à moi.
Qu'est-ce que vous lui avez dit au moine?
Toute ma colère que je traînais depuis toujours.
Colère envers qui?
Envers l'Église, oui. Envers l'Église catholique. Je pense qu'on connaît toute l'histoire de... En tout cas, on pense connaître l'histoire, on sait... Toute l'Église catholique, comment elle a détourné le message du Christ, qui est un message extraordinaire en soi. Et aussi, toute ma colère envers les hommes. J'étais une féministe et j'étais beaucoup en colère... juste de l'histoire en général, l'histoire du féminisme en général, si on s'attarde un peu, il y a de quoi être en colère quand on est une femme. Alors, puis aussi ma sexualité, que j'arrivais plus à savoir si j'étais bi en fait depuis 8 ans, et puis bisexuelle, puis j'arrivais pas à savoir est-ce que je suis vraiment bisexuelle, est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis homo, est-ce que j'étais tellement perdue. Mm-hmm. C'est tout ça que j'ai lancé à son visage.
Vous avez crié, hein?
Oui.
Et ce que je trouve intéressant, vous avez fait ces confidences à un moine, mais bon, ceux qui parlent à un psychologue, est-ce que ça aurait fait le même effet, un psychologue? Pourquoi un moine?
Ben, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça aurait fait effet. Mais moi, j'étais en thérapie depuis plus de 10 ans.
Mm-hmm.
Et ça m'avait rien donné.
Et c'était une retraite fermée?
C'était même pas une... c'était une retraite fermée. Je suis allée là, je devais être là pour au moins une semaine.
Mais en silence?
Oui. Ah oui, là-bas.
Ça n'a pas été le cas, hein? Avec le moine, avez délié votre langue.
Mais avec le moine, tu peux parler, mais t'es dans un petit cubicule, là, tu sais, là, t'es enfermé en 4 murs, là, tu sais.
Mais est-ce que c'est difficile comme expérience d'aller dans... de garder le ski? Parlez-moi de cette expérience.
C'était épouvantable pour moi. Les démons intérieurs remontent. Alors, c'est pas pour rien qu'ils te mettent en silence. Bon, premièrement, t'es dans une abbaye. Une abbaye qui est les bénédictins. Et eux, ils sont vraiment dans le silence et le travail et la prière. C'est leur vie. Tout arrive là. Moi, j'avais une vie vraiment hors du silence. Là, j'étais tout sauf dans le silence. Ça a été très difficile. Très difficile de faire face à tout mon discours intérieur, mes obsessions, mes peurs, mes... c'est là que c'est comme ça t'assaille.
Mais Madame Bédard, pour ceux qui sont à l'antenne puis qui perdent pied, c'est quoi votre message d'espoir?
C'est qu'on pense que c'est fini, mais c'est jamais fini. Il faut juste être à l'écoute de ce qui se passe souvent extérieurement. Il y a toujours quelqu'un qui est mis sur notre route, que j'appelle des anges, qui est là pour venir nous tendre la main et nous suggérer quelque chose, nous proposer quelque chose. Et il faut l'écouter, il faut y aller, il faut arrêter d'écouter notre démon intérieur et sortir de soi et aller vers ce qui nous est proposé. Moi, ça a été le Christ qui m'a libérée de tous mes démons, et encore aujourd'hui. Il y en a que ça va être autre chose. Mais la spiritualité, la vie spirituelle, le monde de l'esprit, c'est comme ça que je l'appelle, la vie surnaturelle, ça existe. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de nous et qui veille sur nous. Il faut juste sortir un peu de son nombril et regarder autour. Il est là, puis il nous tend la main. Alors,
parce que pour certains, ça peut être le Christ, comme vous. Dans l'autre, il y en a toujours qui croient en une bonne étoile, qui les protège et tout ça.
Oui.
Maintenant, vous en êtes de toute évidence, vous en êtes sortie. Vous m'avez l'air en pleine forme, rayonnante,
ouais,
madame. Oui. Et comment on fait pour une fois qu'on s'en est sorti, pour s'assurer de ne pas y retomber.
Oui, c'est ça.
Parce que le risque est toujours là.
Hein? Oui, oui. Moi, ma solution, ça a été vraiment de retourner voir ce moine-là.
C'est quoi son nom?
Ah, je peux pas le dire!
Lire le livre. Il n'est même pas dans le livre?
Ah non, son nom n'est pas là. Ah. Je l'appelle le moine X. Mais okay. C'est encore aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, toujours mon accompagnateur spirituel. J'en ai eu d'autres, j'en ai d'autres accompagnateurs. Mon mari est celui qui m'accompagne le mieux, je dirais. Mais moi, ça a été vraiment de plonger dans la foi que je ne connaissais pas. J'avais l'idée que je me faisais de la foi catholique, l'idée qu'on en a un peu tout le monde. Ouais. J'avais une fausse idée de ce que c'était. Et j'ai dit, je veux quand même y aller par moi-même. Puis vraiment, j'ai étudié la foi catholique de l'intérieur. J'ai arrêté d'écouter ce que le monde disait, ce que les médias disaient. Et je suis allée et, j'avais déjà vécu une expérience très forte spirituellement. J'avais fait la rencontre du Christ. Alors, je dirais que le gros était fait. Mais j'avais tellement mille et une questions sur plein de sujets. Alors moi, j'ai décidé de plonger là-dedans. Je me suis inscrite à un groupe d'exercices de la vie courante de Saint-Ignace de Loyola. Ça existe depuis 800 ans. Là. Oui?
Mais c'est super intéressant. Alors, je répète, le livre s'appelle « J'étais incapable d'aimer ». Le Christ m'a libéré. Nous sommes donc avec l'auteur Brigitte Bédard et c'est disponible aux éditions Novalis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment un récit délicieux.
Merci Catherine, merci.
Merci à vous, madame.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo nouait dans le dos des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait. Je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Ne parlez jamais d'amour, le grand amour, ça n'existait pas. Je m'y connais jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop. Thank you.
Le Grand Amour par Albin de la Simone.
Si vous aimez les chansons que vous entendez depuis le début de cette édition d'Aime l'été, eh bien c'est Maurice Bolduc qui est non seulement le metteur en ondes et technicien, mais également directeur musical de, pas de la station, mais c'est lui qui s'occupe du choix musical pour l'émission. Merci beaucoup, Maurice. Dans les prochaines minutes, on va parler tennis. Et Catherine, il y a une question que je brûlais d'envie de vous poser. Quel est votre... Avez-vous un joueur de tennis préféré?
D'abord, je voudrais dire que je trouve la question très indiscrète. Non.
Ouais.
J'ai toujours eu dans mon cœur John McEnroe.
Ouais, John McEnroe, l'enfant terrible des cours, qui était également mon joueur favori, un gaucher, qui était un joueur qui était excessivement brillant, notamment au filet.
Alors, et très beau aussi.
Ben, il y avait quand même son style, hein? Il y avait de la personnalité, ben, son, on ne peut pas le nier.
Appelons un chat.
Oui, tout à fait. Ce que je vous promets dans les prochaines minutes, c'est pas de faire de votre enfant un John McEnroe, mais à tout le moins un peu de l'habituer au tennis, hein, de le familiariser avec un très, très beau sport, parce que la beauté du tennis, Catherine, c'est qu'on peut jouer toute sa vie. Hein? Tout dépend à différents calibres. Hein? Des fois, on commence en simple, après ça, on va en double. Mais si vous jouez au tennis, par exemple, à la température caniculaire présentement, ben, assurez-vous de vous hydrater. Alors, j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui offre des leçons de tennis inclusive. Alors, qu'est-ce que le tennis inclusive? Bien sûr, c'est des cours qui s'adressent aux personnes en difficulté d'apprentissage, soit vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, avec un déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ou le syndrome de Down, mieux connu sous l'appellation de trisomie 21. Philippe Manning est son nom. Il a fondé ProSet Autism en 2010. Je l'ai rencontré afin d'en connaître davantage sur son organisme et ses méthodes d'enseignement qui font en sorte de mieux répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle.
Les classes étaient plus petites. Mm-hmm. Les objets que j'utilisais, les instruments, c'était mm-hmm. plus facile, plus adapté, que tu peux vraiment le joindre à l'enfant. Mm-hmm. Pas beaucoup des instructions, mm-hmm. mais vraiment suivez la balle. Mm-hmm. Donc, c'était comme une instruction, mm-hmm. mais avec telle adaptation dans le cours. Quand tu vois les enfants avec des problèmes de compréhension, ça c'est vraiment naturel quand on parle avec les enfants, j'ai vu que je veux couper leçon par leçon par leçon, puis j'ai trouvé que le succès arrive quand tu donnes le temps, puis quand tu donnes les points communs. Donc ça, c'est vraiment avec la chance de travailler avec un à un, avec les enfants, j'ai vu que, wow, ça, c'est magnifique. Puis les parents ont dit, oui, on suis content qu'on trouve quelqu'un qui est patient, mm-hmm. Puis avoir l'attentif pour les enfants. Donc, ça trouve dans le terrain de tennis, d'un terrain de battu ou un terrain hard.
Oui, un terrain de ciment, par
exemple. Oui, avec beaucoup de balles. Pas juste mm-hmm. un doigt. On parle d'une 50 de balles. Mm-hmm. On parle de répétition, mm-hmm. de oui. coups de doigt, de coups de revers.
Mais donc, ça, c'est un peu comme des cours conventionnels, M. Manning. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que ces gens-là ont besoin, comme vous dites, beaucoup d'attention, peut-être plus de répétition? Est-ce que au niveau de leur capacité motrice également, peut-être. Il y a certains qui sont peut-être aussi plus limités au niveau
de... Oui. Ça, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas tennis régulier, mm-hmm. c'est tennis adapté.
Oui.
On parle de la première chose.
Un tennis inclusif aussi. Hein?
Oui, absolument. On parle de la balle doit être la chose commune. Tu te souviens quand tu... On se souvient quand la chance de lancer, attraper la balle. Mm-hmm. Hein? On ne parle pas des balles qui sont grosses et petites, on parle mm-hmm. de les balles grosses. Mm-hmm. Puis on trouve que si tu pousses la balle avec mm-hmm. ton main sur le terrain, mm-hmm. tu vois, ah, la balle va être directée dans quelque part.
Oui.
L'enfant doit rejoindre, puis il doit faire la même chose que toi. Mm-hmm. Donc on fasse une parlement une suivre de cours. Donc, mm-hmm. lui fait la même chose que moi. Mm-hmm. C'est comme Simon says. Puis, lentement, tu gardes la tension de l'enfant. Mm-hmm. Puis là, tu vois, ah, ça ajoute. Après ça, on travaille avec la raquette. Ben, peut-être pas tout de suite. On parle d'un filet. Mm-hmm. On attrape avec le filet. Mm-hmm. L'enfant aime d'attraper quelque chose. Mm-hmm. Donc, on utilisait le
comme
le...
un filet de pêche ou un filet pour aller chasser
n'importe quoi.
Les papillons.
Exact. Mm-hmm. En disant, oh, on va chercher les papillons. Hey, ça, c'est fun, ça. Mm-hmm. On augmente un petit peu.
Ça vous a pris du temps avant d'élaborer cette forme, ce programme-là?
Oui.
Cette technique d'enseignement-là,
j'étais comme un entraîneur depuis 20 ans avec le Tennis Canada, Tennis Québec. Toujours, je pensais comment les enfants peuvent aller plus loin. Pas juste les enfants de telle ou de choses, mais aussi les enfants qui veulent aller plus loin. Mm-hmm. Donc, c'était mon débutant de dire oui. On va trouver des manières que l'enfant peut vraiment exploiter son
potentiel. Hein?
Oui.
Vous parlez du tennis, vous avez été instructeur de tennis pendant longtemps à Tennis Canada. Bon, je présume que d'aller vers ce sport, c'était tout à fait naturel pour vous.
Oui.
Et qu'est-ce que le tennis permet comparativement aux autres sports? Est-ce que ce serait la même chose ou le tennis a quelque chose de particulier?
Le tennis donne l'espace. Ça donne l'espace pour l'enfant ou l'adulte ou l'ado pour trouver son réponse. Donc, quand tu vois la mesure de terrain, c'est comme un terrain simple. On me dit un terrain simple. Mm-hmm. Tu vois le service, le terrain service, la ligne service, c'est pas mal gros. C'est un carré. Mm-hmm. Tennis, c'est logique. Donc, tu dois utiliser la logique. Mm-hmm. Puis, tu dois avoir beaucoup de l'aide. L'enfant, mm-hmm. l'avant de, va voir, ah, OK, est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que je vais aller ici? Mm-hmm. Qu'est-ce qui m'a... mes instructions. Les enfants veulent avoir c'est quoi ses limites. Mm-hmm. Ou est-ce que je peux aller plus loin? Mm-hmm. Ça, c'est l'effort avec tennis. Tennis, c'est une réponse d'action. Mm-hmm. Comme le soccer. Mm-hmm. Hein, on lance la balle, l'enfant lance à toi. Seule chose que le terrain est limité un petit peu. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, tu dois aller trouver la forme. Mm-hmm. Pas mal vite, mais on parle de les gestes simples. Mm-hmm. Lance la balle à moi, attrape à toi. Lance à moi. Mm-hmm. Mais on peut aller deux, trois exercices dans une. Donc, ce que j'ai trouvé, quand on va faire un lateral movement, mm-hmm. un mouvement latéral, je augmente aussi son manière de
maîtriser l'espace
ouais.
autour de lui.
Donc, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Ouais.
Et du côté des parents, comment, lorsqu'ils viennent vous parler, ils sont quand même en train de témoigner un peu, ils voient également, ils observent ces changements-là chez leurs enfants. Là. Qu'est-ce qu'ils vous disent en gros? Là?
Tous les parents sont différents. Tous les enfants sont différents. Mm-hmm. C'est vraiment... Ça touche beaucoup parce que j'ai vois les enfants, je vois l'action de les parents, puis je parle avec les parents, puis je dis, hey, est-ce que j'ai trouvé ton instruction? Est-ce que j'ai t'aidé ton enfant? Mm-hmm. Puis les parents disent, wow, merci beaucoup mm-hmm. pour ton patience, pour ton aide de trouver une solution pour les sports. Que mon enfant peut sait que c'est une place que l'enfant peut frapper n'importe quelle balle, mm-hmm. mais il a un bon exercice, puis il veut aussi faire les jeux avec les traîneurs. Mes traîneurs sont vraiment les personnes mm-hmm. avant. Hein? Moi, mm-hmm. je suis derrière. Ouais. Mais les
Parce que tous les instructeurs qui donnent les cours
oui.
ont été formés
oui.
également. Parce que ce n'est pas nécessairement des éducateurs spécialisés, ils ne sont pas nécessairement familiers avec cette clientèle-là, mais par contre, ils ont des notions de tennis. Et vous, votre organisme, les forme, leur procure une formation.
Oui, absolument. Absolument. Mm-hmm. Il y a certaines mesures, il y a certaines techniques au niveau de PAL, mm-hmm. au niveau de visuel, mm-hmm. au niveau de sensor motor. Il doit vraiment savoir. Oh, OK, je dois reculer un petit peu. Je donne trop d'attention à ce sujet. Mm-hmm. Écoute, la cour est une heure mm-hmm. ou une heure et demie, mais dans la cour, tu dois changer l'avènement beaucoup pour vraiment rester avec l'enfant, parce que l'enfant bouge. Hein? Mm-hmm. Toi, tu n'as pas la chance de s'asseoir pour faire n'importe quoi. Le tennis, c'est un sport de bouche.
Il faut bouger au tennis, Catherine, hein? Et ça, c'est important de garder les jeunes actifs et de leur donner beaucoup de balles, de les faire, bien sûr, de, qu'ils ne soient pas statiques. C'est un peu la leçon que nous donne Philip Manning, qui, je le rappelle, est le directeur et fondateur de ProSet Autism, qui se spécialise dans les leçons de tennis inclusive. Alors, si vous voulez un peu plus de renseignements sur l'organisme, je vous dirige vers le site web. C'est le www.prosetautism.ca. Également, des numéros de téléphone. Si vous voulez l'adresse courriel, si vous voulez un peu plus de renseignements, c'est info@prosetautism.ca. Et pour les gens dans la région de Montréal, c'est le 438-321-1564. Si vous êtes dans la région de la capitale fédérale, c'est le 613-413-4315. Et dans la région de Toronto, la ville reine, c'est 647-883-4766. Mais tous les renseignements sont sur le site web de l'organisation.
Très belle initiative.
Oui, on se quitte pour quelques minutes et tout de suite, on vous revient pour la dernière partie de cette édition de M'l'été du 4 juillet 2019.